L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Mandeléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ces radiojournales. Au sommaire, les mécanismes conjoints de vérification élargis plus peut-il réellement consolider les cessez-le-feu dans l'est de la RDC? Pour un chercheur du groupe d'études sur les conflits et sécurité humaine, son activation constitue une étape importante du processus de Doha, mais son efficacité dépendra du respect des engagements par les parties et de la maîtrise des groupes armés actifs sur le terrain. Son analyse dans ce journal. Également dans cette édition, à l'approche de la saison des pluies, l'inquiétude grandit à Bukavu et ses environs face au risque d'éboulement et de glissement des terrains. Plusieurs sites déclarés impropres à la construction continuent pourtant d'être occupés et bâtis malgré les drames enregistrés ces dernières années. Radio Mandeléo s'intéresse à cette situation et vous propose un reportage complet dans cette édition. La technique est assurée par Jean-Claude Ndagui au microphone pour la présentation. Je suis Omar Moudekereza, mesdames et messieurs. Vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe par instant. C'est tout pour les titres. Place à présent détail.
Pour que le rumeur cesse et que la vérité triomphe, tout le temps dans nos vies.
Chaque jour,
pour que le rumeur cesse
et que la vérité triomphe.
Radio Mandeléo, une source crédible d'information.
Et débutons cette édition du journal par cette information. L'activation des premières missions dans le cadre du mécanisme conjoint des vérifications élargies plus constitue une étape cruciale dans le processus de Doha, car elle permettra de sécuriser les parties belligérantes et veiller à ce que l'ordre règne sur le terrain. Ainsi pense Josaphat Moussamba, chercheur du groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine, une unité de recherche de Serouki SP de Bukavu. Selon lui, le mécanisme conjoint des vérifications élargies plus est de nature à restaurer les cessez-le-feu progressivement, car dit-il, la marche des 1000 pas commence toujours par le premier. Cependant, il craint que le parti ne respecte leurs engagements et que certaines dynamiques des conflits locaux comme le Wazalendo et d'autres groupes étrangers ne nuisent à ces processus. Josaphat Moussamba au micro d'Expedi Kalou.
D'abord, on dit souvent que la marche des 1000 pas commence toujours par le premier. À mon avis, il s'agit d'un processus qui commence. Observons-les et voyons comment il va mettre en œuvre ses dispositions et les processus de vérification des cessez-le-feu entre les parties belligérantes. Ensuite, les mécanismes conjoints de vérification plus devraient être conscients que ce processus est inclusif et montrer aux agents de la sécurité des parties qu'ils doivent respecter les casques bleus de l'ONU. Des sources locales dans le Nord Kivu à Goma rapportent que des intimidations dont ces derniers sont victimes de la part des agents de sécurité, surtout d'une des parties au conflit, ne montrent pas le respect des casques bleus. Pourtant, la MONUSCO apporte un appui au mécanisme. Ce n'est pas le contraire. C'est une étape cruciale car désormais, on va suivre le cessez-le-feu, il va sécuriser les parties belligérantes et, à travers ces processus, veiller à ce que les régulations ou les dispositions soient observées. Et pour clôturer, je crains que les questions liées aux conflits locaux, comment on gère les politiques armées, les politiques de combat de Wazalendo et comment est-ce que les dynamiques régionales, surtout les questions de Washington entre le Gouvernement congolais et le Gouvernement rwandais et les rôles des groupes armés burundais qui se sont réactivés dans ces zones-là, ne nuisent à ce processus.
Josaphat Moussamba interviendra dans la rubrique « Parlons-en » suivre ce mercredi 26 août matin sur Radio Mandeléo. Entre-temps, le conseiller principal de l'administration Trump sur les questions africaines, Massad Boulos, salue la première mission de surveillance du cessez-le-feu effectuée à Minembwe. Dans un message publié hier mardi 25 août sur son compte X, Massad Boulos estime que cette situation constitue un passage des engagements pris sur le papier alors mis en œuvre sur le terrain. Une surveillance efficace peut renforcer la confiance, protéger les civils et contribuant à créer les conditions d'une paix durable dans l'est de la RDC, affirme-t-il. Les responsables américains remercient également les partis pour leur coopération, ainsi que le personnel de la MONUSCO pour son travail ayant permis la mise en place de cette mission de surveillance. Et direction présentement territoire décalé, où la vie peine à reprendre son cours normal, dans plusieurs villages du groupement des Iralo, dans le haut plateau du territoire décalé, où des violents combats ont opposé ces dernières semaines des combattants Wazalendo aux troupes de l'AFC 21 3. Alain Kabika nous fait le point.
Il s'agit principalement des zones comme Changé, Lumbishi, Chambombo, Kalunda, Tushunguti, Katenderi, Mutale et Matutira qui restent presque inactifs dans leur globalité à la suite de l'incertitude sécuritaire. Des centaines d'habitants n'ont pas réussi à retourner dans leur village après avoir fui ces combats qui ont conduit à la chute de l'ensemble du groupement des Iralo aux mains des troupes de l'AF-123. Si certains de ces déplacés ont pris la direction de la province voisine du Nord Kivu, notamment à Masisi et à Walikale, d'autres sont restés en débandade dans la brousse, alors que d'autres ont pris d'assaut les écoles ou encore les familles d'accueil à Numbi et dans d'autres zones. Pour l'instant, certains ont commencé à rentrer chez eux, témoigne un responsable d'une organisation locale contactée, mais qui précise que face au vide et l'image que présentent leurs entités, nombreux préfèrent retourner par peur de revivre la violence. Dans cette partie de la province du Sud Kivu, la plupart des écoles ont été occupées soit par les déplacés, soit par des combattants armés, et ce sont les pupitres qui ont servi comme bois d'échauffe, ce qui rend hypothétique toute possibilité d'une rentrée scolaire réussie. Nous n'avons même pas encore commencé à penser à la rentrée scolaire, car les conditions sont vraiment difficiles, témoigne-t-il sous les sceaux de l'anonymat. Néanmoins, des mouvements ont repris entre certaines parties du littoral et la cité de Changé, avec notamment la circulation des motos. En clair, la situation reste volatile au vu de l'intensité des combats qu'ont vécu les habitants de cette zone, mais aussi la persistance des poches de résistance dans certaines parties des Iralo, conclut notre source.
Merci à vous, Alan Kavika, est toujours dans les territoires décalés. Et disons que plus de 1500 ménages déplacés vivant en famille d'accueil et retournés sont en situation de grande vulnérabilité dans plusieurs villages de la presqu'île de Bouzi-Boulenga dans le groupement des Bouzi. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué consulté par Radio Maïndéléo mardi 25 août 2026 et signé par les cellules d'animation communautaire et les relais communautaires dans cette partie du Sud Kivu. Expédie Kialou pour les détails.
Ces structures indiquent que la situation humanitaire continue de se détériorer dans plusieurs villages de la zone. Selon les chiffres communiqués par ces structures, 1340 ménages déplacés vivant en famille d'accueil sont recensés dans les villages concernés. Il s'agit notamment de 125 ménages à Moulala, Nyarubuye, Vahe, Bouati et Bouumba, 280 à Tchondo, Bunyunda, Bunyueju, Bubale, Kihanda et Nyundo, 190 à Muchibwe, 350 à Muranga, 100 à Kitembo et 300 à Butumba. À côté de ces déplacés, le même communiqué fait état de 1755 ménages retournés dans ces différents villages. Ces familles vivent essentiellement des petits travaux journaliers. Dans les champs, elles peuvent gagner entre 2500 et 3000 francs congolais par jour. D'autres se transforment en porteurs des bagages et des produits agricoles pour gagner entre 500 et 1000 francs congolais, selon le poids du colis, précise ce communiqué. Pour Sadiq Juge, membre du réseau de protection et de plaidoyer à Mani à Minova, ses revenus ne permettent pas aux ménages de couvrir leurs besoins essentiels. Il plaide pour une assistance urgente en vivres et en biens non alimentaires. La situation des enfants est également préoccupante dans cette période où les parents préparent la rentrée scolaire, d'où l'appel à un soutien en termes de fournitures en leur faveur. Sadiq Juge.
S'est déplacé et a fui les affrontements dans les groupements des Sihalo, toujours dans les territoires des Calais et d'autres dans les récents affrontements dans l'axe au plateau du groupement des Bouzi, dans les villages Loanumbi, Alumbishi, Chambombo, Kavumu, Échange, Isso, Aminova, dans la presqu'île de Bouzi-Boulenga, village de Muchibwe, Kitembo, village de Butumba, village de Boulenga Centre, de Tchondo, mais aussi dans les villages de Moulala, de Kishinji, de Bisha, à Buganga et aussi à Kalungu. Ils sont sans assistance, ils ont besoin de vivre et de non vivre et aussi d'un appui en cash pour subvenir à leurs besoins, surtout à cette période d'ouverture de l'année scolaire.
Il appelle ainsi les autorités et les organisations humanitaires à renforcer leur assistance en faveur des déplacés vivant en famille d'accueil et des retournés dont les conditions de vie se sont dégradées depuis leur retour dans la zone.
Et parlons de l'éducation à présent. Moins d'une semaine de la rentrée scolaire 2026-2027, prévue le mardi 1er septembre prochain, un faible engouement est observé sur le marché des fournitures scolaires à Bukavu. Dans les grands marchés des Kadutu, au marché dit chez Baba Chingazi, au feu rouge à Nyawera, les vendeurs et vendeuses rencontrés ont dit que très peu de personnes n'en sont visibles pour effectuer des achats des fournitures scolaires. Au cours d'une descente effectuée sur différents marchés, mardi 25 août 2026, il s'observe que les acheteurs arrivent à compte-goutte. Les vendeurs et vendeuses pensent que ce faible engouement fait partie des effets de la situation actuelle où plusieurs ménages sont faibles économiquement. De même, ajoute-t-il, des revendeurs qui venaient des territoires pour se ravitailler en stock dans la ville n'arrivent pas comme c'était auparavant. Une vendeuse rencontrée au marché dit chez Baba Chingazi espère que la situation de la vente pourrait s'améliorer quelques jours avant la rentrée. On l'écoute.
Quelques-uns arrivent pour acheter, d'autres demandent juste le prix. Nous ne savons pas si c'est la crise ou s'ils achètent quelque part. Mais l'année passée, à cette heure, il y avait l'engouement. Il ne reste que 2 semaines, mais les parents ne viennent pas acheter. La marchandise est là, mais pas d'acheteurs. Nous nous demandons s'il y aura rentrée scolaire ou pas.
Il fustige également le comportement de certains responsables d'établissements qui, malgré l'interdiction du gouvernement, continuent d'exiger l'achat des fournitures scolaires dans leurs écoles. Précisons que la rentrée scolaire 2026-2027 est prévue le 1er septembre prochain, selon le calendrier scolaire 2026-2027 publié par le ministère national de l'Éducation. Et dans ce même registre de l'Éducation, disons que le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation suspend jusqu'à nouvel ordre les activités académiques et para-académiques dans plusieurs établissements publics de Bukavu et Goma. Dans des correspondances rendues publiques et parvenues à Radio Maindileo, il est indiqué que la mesure concerne l'année académique 2026-2027 et est motivée par la situation sécuritaire jugée particulièrement préoccupante dans les deux villes. À Bukavu, elle touche notamment l'Université officielle de Bukavu, l'ISC, l'ISTEM, l'ISP, l'ISDR et l'ISAM. À Goma sont concernés l'Université de Goma ainsi que l'ISC, l'ISTEM, l'ISTA et l'ISP. La suspension porte notamment sur les inscriptions et réinscriptions, les enseignements, les évaluations, les délibérations et tout autre acte pouvant conduire à la délivrance d'un titre académique pour l'année 2026-2027. Une exception est toutefois prévue pour les étudiants finalistes de l'année académique 2025-2026 dont le cursus n'a pas pu être achevé. Ils peuvent poursuivre leurs activités nécessaires à la finalisation de leurs études dans des établissements légalement établis. Dans une note circulaire, la ministre demande également aux établissements situés dans les zones non affectées par les conflits de faciliter l'accueil et l'intégration académique des étudiants provenant des zones touchées. Une attention particulière est accordée aux étudiants en médecine et aux finalistes. Par ailleurs, le ministère ordonne la suspension du paiement de rémunération des 48 membres du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique accusé d'avoir rejoint l'AFSM23, de lui avoir prêté allégeance ou d'avoir accepté d'exercer des fonctions sous son autorité. La mesure intervient en attendant l'aboutissement de leur procédure de révocation, indique le ministère. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal sur Radio Maindileo, émettant en direct de la ville de Bukavu.
Radio Maindileo, la radio de proximité. Plus c'est mieux pour et avec ses auditeurs.
Et nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition du journal, comme pour les cas des incendies principalement durant la saison sèche, la ville de Bukavu enregistre des catastrophes naturelles qui provoquent des morts et d'importantes pertes matérielles durant la saison pluvieuse. Chaque année, lors des premières pluies et généralement entre août et décembre, des familles entières perdent leurs proches et d'importants investissements suite à ces catastrophes. À l'approche de la saison des pluies, Radio Maindileo fait un tour dans la ville dans l'objectif d'éveiller la conscience des habitants. Et c'est avec Myriam Mufano.
Dans les 3 communes de la ville de Bukavu, plusieurs espaces ont été déclarés impropres à la construction. Dans la commune de Kadutu, l'arrêté cible, les flancs des cliniques universitaires Mwanzi, situés au quartier Nkafu, les sites de l'Institut technique Fundi Maendeleo, Itfem en sigle, au côté gauche de la route menant vers l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM, et les sites de l'ISDR sur les flancs droits de la route Place de l'Indépendance menant vers les lycées Wima ainsi que les sites dénommés Kabwakasiri. L'arrêté parle également du site Ikanga situé sur les flancs droits de la rivière Ruzizi, en face des Tchangugu au Rwanda ainsi que les flancs droits attenant à la rivière Ruzizi après Guiamba. En plus de l'interdiction d'y ériger des constructions ou y résider à quelque titre que ce soit, toutes les opérations de lotissement, des concessions, des distributions, d'affectation de parcelles, des modifications du relief du sol ou des déboisements y sont interdites. 7 ans après, l'arrêté semble ne rester qu'un assemblage de simples écrits. En effet, sur les sites précités, ce sont des maisons qui naissent tous les jours, les unes étant suspendues sur les autres ou encore sur les structures moins solides. En 2023, par exemple, seule la commune de Kadutu avait enregistré 20 morts suite aux éboulements survenus, notamment au quartier Nyakaliba, Kafou et Nyamugo. 2 ans plus tard, ça sera les tours de Buolo 3 et Guiamba, où 3 familles ont disparu avec un total d'au moins 15 personnes ensevelies dans des décombres. Ces nouvelles infrastructures érigées sur les sites classés comme dangereux suscitent une forte inquiétude au sein de la société. Des observateurs s'indignent de voir que cela soit encouragé par les autorités qui livreraient des autorisations de bâtir et autres titres fonciers sur ces terres. D'autres s'inquiètent de voir que les habitants qui, malgré le fait d'avoir assisté aux catastrophes mortelles sur un site, n'hésitent pas à y reconstruire. Face aux pluies qui s'annoncent, les observateurs appellent à la vigilance et à l'action de l'autorité. Ceci passe par la surveillance permanente de murs de soutènement, le curage permanent de caniveaux et petits ruisseaux, s'interdire de jeter les déchets et les bouteilles plastiques dans le collecteur Kawa et la rivière Wesha, mais aussi s'y rassurer de la capacité des maisons construites sur des pentes à résister aux coups induits par les eaux des ruissellements sur les sols. Prenant l'exemple des pluies qui se sont abattues sur une bonne partie de la ville de Bukavu, la nuit du lundi à mardi 25 août 2026, avec des tas de déchets charriés par les eaux de ruissellement, les mêmes observateurs invitent la mairie à repenser la politique de gestion des déchets pour prévenir les pires.
Merci à vous, Mairie Amoufano, et parlons santé dans cette édition du journal. Disons qu'en seulement une semaine, le groupement de Lugendo dans la zone de santé de Katana en territoire de Kabare a enregistré 15 cas de choléra, dont 10 adultes, 4 adolescents et un enfant. Cette augmentation des cas serait notamment liée au manque d'hygiène dans certains ménages et lieux publics, à l'utilisation d'une eau non potable ou insuffisamment traitée, ainsi qu'à la faiblesse des mesures d'assainissement. La confirmation est de l'infirmière titulaire du centre de santé de Lugendo, Telesphore Rukiku, au cours d'un entretien accordé à la presse mardi 25 août 2026. Pour lui, cette hausse des cas nécessite une vigilance de la part de la population, surtout dans les zones où l'accès à l'eau potable reste difficile. Il recommande ainsi aux habitants de Lugendo et ses environs de renforcer les mesures d'hygiène, notamment en se lavant régulièrement les mains, en utilisant correctement les latrines et en consommant uniquement de l'eau bouillie ou traitée. Telesphore Rukiku appelle également les familles à éviter de jeter les déchets et les eaux usées près des points d'eau afin de limiter le risque de contamination. L'infirmière titulaire encourage par ailleurs toute personne présentant des signes suspects à se rendre rapidement dans un centre de santé sans attendre une aggravation de son état. On l'écoute.
Quand il n'y a pas d'eau dans la communauté et nous utilisons l'eau du lac, je voudrais que nos communautés puissent toujours utiliser l'eau chlorée. Nos relais communautaires distribuent les comprimés d'aquataps dans la communauté. Je pense que toute famille qui en a réussi, qui est sensibilisée, doit prendre ces comprimés et les mettre dans les bidons d'eau qu'ils ont puisés au bord du lac. Il y a certaines règles que peut-être certaines personnes oublient, le lavage des mains avant de manger, après les grands besoins, avant la cuisson des aliments, après la manipulation des linges ou des couches des enfants et avant de faire téter l'enfant. Je dis encore une fois à la communauté que le centre de santé est là et prêt à recevoir tout cas de diarrhée et de vomissement, donc tout cas suspect de choléra, qui peut s'improviser dans la communauté, que les membres de cette famille puissent l'amener directement au centre de santé parce que la prise en charge reste gratuite.
C'était là l'infirmier titulaire du centre de santé de Lugendo, Telesphore Rukiku, dans ses propos recueillis par Myriam Mufano. Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, disons que la dépendance de certains projets à caractère judiciaire au financement des bailleurs, notamment pour les crimes internationaux, influence les priorités de la justice et laisse certains crimes sans réponse judiciaire. Ceci est l'un des résultats de la recherche doctorale menée entre 2023 et 2026 sur des faits à la justice en matière des crimes de masse à l'est de la RDC. Analyse du processus juridictionnel à travers les interactions des acteurs. Ce travail est porté par le docteur Jonas Kakule Sindani dans le cadre du projet Droit, Information et Recherche Croisée. Détail Hélène Boudjiriri.
Selon les chercheurs, l'intervention de plusieurs organisations dans les domaines de la justice internationale internationale contribue progressivement à l'émergence d'une justice des projets fortement liée au financement disponible et aux priorités définies par les bailleurs. Pour le docteur Jonas Kakule-Sindani, cette dépendance peut avoir pour conséquence de limiter la capacité de la justice à prendre en compte l'ensemble des crimes commis. Les institutions et acteurs judiciaires risquent alors de concentrer leurs efforts sur les dossiers correspondant au programme et au financement disponible au détriment d'autres situations pourtant importantes pour les victimes. Face à ces risques, les chercheurs plaident pour le renforcement d'une justice véritablement indépendante, capable de fonctionner selon les principes de l'état des droits et de garantir une réponse judiciaire à toutes les victimes sans distinction. Le docteur Jonas Kakule-Sindani.
Je présentais notamment un résultat relatif à l'ONGisation de la justice pour les crimes internationaux. Et quand je parle de l'ONGisation de la justice pour les crimes internationaux, ici je vois une circonstance dans laquelle des organisations de la société civile interviennent de manière assez prépondérante depuis la collecte des faits jusqu'à la saisie de la juridiction. Lorsque ces acteurs ils interviennent souvent dans des cadres de projets qui sont financés par des bailleurs nationaux et internationaux. Et c'est une justice des projets, c'est-à-dire une justice qui est dépendante des financements disponibles. Lorsqu'une justice intervient dans le cadre d'un projet, elle ne va s'intéresser qu'à des agendas ou à des priorités dits bailleurs, ce qui fait qu'un certain nombre de crimes ne vont pas arriver en justice parce que les ONG ne vont documenter que les faits qui entrent dans la logique, qui entrent dans les priorités des bailleurs.
Néanmoins, il note avoir rencontré des acteurs dynamiques sur les terrains dans la documentation des crimes internationaux, dans l'appui aux victimes et dans les plaidoyers pour la lutte contre l'impunité de ces crimes. Après cette séance de présentation de ces résultats avec les acteurs de la société civile, d'autres sont prévus, notamment avec les agences des Nations Unies et organisations internationales, les organisations étatiques et les communautés.
La revue de presse. Radio Mindélu capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La mort des quatre enfants d'une même famille dans un incendie à Chirunga dans le territoire de Kabare et l'inquiétude des habitants du quartier Sungu dans le territoire d'Ouvira autour de la disparition des matériaux destinés à la construction d'un puits d'eau communautaire à Kabindula, toujours en territoire d'Ouvira, font partie des sujets commentés par la presse mardi 25 août 2026. Alain Kapika pour la revue de presse.
Ouvrons cette revue de presse par le site Kivu Avenir qui annonce que quatre enfants d'une même famille ont péri dans un incendie survenu le week-end dernier à Chirunga, dans les territoires de Kabare au sud Kivu. Selon des témoignages recueillis sur place et cités par ce média, le sinistre s'est déclaré alors que les parents des enfants se trouvaient à l'extérieur de leur habitation. Alertés par les flammes, des habitants du village ont rapidement accouru pour tenter de porter secours aux occupants et de maîtriser le feu. Malgré les efforts, déplorent ces médias, les quatre enfants n'ont pas pu être sauvés. Leur décès a provoqué une vive émotion au sein de la communauté, plongée dans les deuils après cette tragédie familiale. Les circonstances exactes dans lesquelles l'incendie s'est déclaré restent pour l'heure inconnues. Aucune cause officielle n'a encore été établie. Ces nouveaux drames ravivent les préoccupations liées aux incendies domestiques dans plusieurs zones du sud Kivu où les moyens d'intervention restent souvent limités. Des constructions qualifiées d'anarchiques se multiplient dans les villages de Chimpuiji et Buhuzi dans les groupements de Mudus en territoire de Kabare au sud Kivu, annonce dans un autre sujet Jambo RDC. Selon la nouvelle dynamique de la société civile NDC Mudusa, des constructions qui ne respecteraient pas selon elle des normes urbanistiques sont visibles dans les milieux. Cette situation obstruit certains canaux d'évacuation des eaux, ce qui pourrait accroître les risques d'inondation et perturber la circulation. La structure citoyenne dénonce par ailleurs l'effet présumé des rançonnements qu'elle attribue à certains agents de la Direction provinciale des mobilisations et d'encadrement des recettes et de la Direction générale des impôts DGI. Elvis Chirimwami affirme que certains habitants seraient sollicités pour verser de l'argent sans recevoir des bordereaux de versement ni des quittances officielles. La NDC Mudusa évoque également des taxations qu'elle considère comme irrégulières, notamment celles liées au terrassement des parcelles et à la construction des maisons en bout ou en planche. blanche. Pour cette structure citoyenne, ces pratiques présumées, si elles sont avérées, pourraient contribuer à la poursuite des constructions anarchiques dans cette partie du territoire des Kabare. La NDC appelle ainsi les autorités compétentes à intervenir pour faire respecter les normes urbanistiques, libérer les voies publiques occupées par les matériaux de construction et vérifier les faits dénoncés concernant les pratiques fiscales. Bouclons cette revue de presse par le site estnews.info qui nous amène en territoire d'Ouvira, où une vive inquiétude gagne les habitants du quartier Songo autour de la disparition présumée des matériaux destinés à un projet de construction d'un puits à Kabindoula. Selon des informations relayées par des acteurs locaux, ces matériaux auraient été acheminés dans le cadre d'un projet communautaire auquel les habitants avaient contribué financièrement. Chaque ménage aurait été appelé à verser une contribution de 3000 francs congolais afin de permettre le lancement des travaux. Cependant, alors que la population s'attendait au démarrage effectif du projet, les matériaux auraient disparu sans que les habitants ne sachent précisément où ils ont été transportés. Cette situation suscite des interrogations au sein de la communauté qui souhaite obtenir des éclaircissements sur la destination de ces matériaux. Dans ce contexte, un appel est lancé aux habitants du quartier Songo et à toute personne disposant d'informations susceptibles de permettre de localiser ces matériaux. L'objectif est de retrouver les matériaux afin qu'ils puissent être réintégrés au projet et que les travaux puissent reprendre. Les initiateurs de cet appel encouragent ainsi les membres de la communauté à partager toute information utile permettant de faire la lumière sur cette situation et de préserver l'aboutissement du projet présenté comme une initiative destinée à répondre à un besoin collectif. Par cette démarche, le responsable local appelle surtout à la mobilisation et à la solidarité des habitants afin que les efforts consentis par la population ne soient pas perdus et que les projets puissent finalement bénéficier à la communauté, conclut estnews.info.
Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle de Jean-Claude Ndagué. Au microphone pour la présentation, c'était moi, Omer Moudekereza. Au revoir.